secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace, it's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Olé.
Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le 99.9 dans votre émission préférée On Off, le mercredi en direct et les rediffs jeudi 17h30 et samedi 17h. Bonjour Sébastien.
Salut Marina, salut tout le monde.
Bonjour Bertrand, le technicien.
Salut tout le monde.
Eh bien aujourd'hui, comme prévu, si vous avez bien écouté PFM tout au long de la semaine, vous avez pu entendre l'annonce de Sébastien concernant l'arrivée de Ousmar dans nos studios. Eh bien on va dire bonjour tout de suite à Ousmar.
Bonsoir Ousmar.
Et bonjour Nathalie qui l'accompagne.
Oui, bonjour.
On débute par un morceau d'Ousmar, c'est... Enfin, Ousmar, on va dire, hein, plutôt, c'est mieux.
Ousmar.
Ousmar. Oui. Ah, pardon, excuse-moi. Oui. Ousmar. Et c'est temps de boîte.
Quand on déménage, c'est sa vie qu'on nettoie. Je suis dans les cartons, je range et j'astique. Des sourires et des larmes sont classés par année. Le bonheur et les drames sont détenus et archivés. J'ai... découvert tous mes cahiers. J'ai vu mon écriture changer. Des leçons d'histoire, des racines carrées s'additionnent dans ma mémoire. Des poussières et tant de photos que je revois, tant d'émotions partagées.
Tant de boîtes et de boîtes et de boîtes et de boîtes.
Oui, vous êtes toujours à l'écoute du 99.9 Radio PFM et vous venez d'écouter Usmar avec le titre Temps de boîte sur l'album, le premier album, L'âge des possibles. Eh bien, Usmar, excuse-moi, je vais me tromper encore dans le cours de l'émission. Excuse-moi d'avance.
C'est pas grave.
Bon, Usmar, alors qui es-tu ?
Qui je suis ? Je suis un jeune homme de 27 ans qui habite Lille. Je suis originaire de Calais. Je fais de la musique depuis pas mal de temps. Je suis passé d'abord par, on va dire, la voie classique, cours de solfège, piano, cours de piano. Après, j'ai fait de la guitare en autodidacte, de la batterie. Et puis après, j'ai découvert les ordinateurs, enfin les sampleurs, tout ça. Qui, donc, en fait, j'ai un peu confronté ces deux mondes en venant un peu du goût et de l'amour pour l'instrument et de le confronter justement avec les machines et ce qu'on peut faire aujourd'hui avec plein de choses, avec les machines. Et donc, je pense que le résultat aujourd'hui vient aussi un peu de ce parcours musical. Après, les influences, ça c'est autre chose, mais le fait de vraiment mélanger ça, quoi, l'instrument et pas se laisser emprisonner par la machine, ce que j'ai l'impression aujourd'hui avec justement les machines, les logiciels, qui sont un peu à portée de tout le monde, on peut facilement devenir esclave de ce qu'on nous propose, et ce qui est toujours intéressant, c'est de détourner soit la machine ou vraiment devenir... moi personnellement, je compose mes chansons guitare-voix ou piano-voix, et puis après, les machines viennent juste pour faire un arrangement, quoi, où elles me permettent aussi de pas aller forcément dans un gros studio et de prendre mon temps chez moi, donc ça c'est ma philosophie, quoi.
D'accord. Donc en fait, le monde dans lequel tu as grandi, c'est la musique essentiellement.
Moi j'ai toujours été... j'ai toujours voulu faire de la musique et... même quand j'ai commencé à faire mes premiers groupes à l'adolescence et tout, l'intérêt c'était toujours de créer des choses et pas de faire des reprises, ça m'intéressait pas. Et même ce qui me gonflait en faisant du piano, c'était, même si c'est normal parce qu'il faut apprendre une technique et jouer Mozart, Schubert, machin, moi j'avais envie qu'on m'explique comment faire les accords et m'expliquer comment ça marche pour créer mes propres trucs. Enfin, il y a toujours eu très tôt cette volonté... d'inventer des petites choses, quoi. Je me souviens, même étant vraiment gamin, quand j'allais sur un piano, j'avais tout de suite envie de faire des mélodies, puis après je me suis aperçu que j'avais de l'oreille et que quand j'entendais une mélodie, j'arrivais à la retrouver tout de suite au piano. Et puis mes parents écoutaient beaucoup de jazz, donc j'ai eu un éveil musical que ça a favorisé mon amour pour découvrir la musique et toutes les musiques.
D'accord, bien. Très bien, c'est intéressant, c'est enrichissant tout ça.
Ouais, moi j'aimerais bien savoir quel a été le déclic en fait qui t'a encouragé à composer sérieusement, à produire un disque tout simplement.
Ça vient pas tout seul comme ça. Il y a vraiment eu des étapes. On va dire que la plus grosse a été Trio Urbain, qui était le groupe dans lequel j'ai opéré pendant quelques années, qui était signé sur un label lillois, distribué par Naïve. On avait fait un maxi, un titre pour une BO, l'album devait sortir, et l'album juste avant d'enregistrer l'album, le label a déposé le bilan, donc ça a été un peu dur, et donc il y a justement 2 ans de boulot, et j'en suis ressorti avec une énorme frustration, et aussi, pas dégoûté, mais un peu gêné du travail en groupe, où il y en a qui aiment, et j'avais plus envie de faire de concessions, j'avais envie d'avancer vite, et donc... j'ai préféré pas justement ne pas rechercher une autre maison de disques, mais partir tout seul sur un projet perso et vraiment mettre toute mon énergie, en sachant que quand on est tout seul, bon, il y a des avantages, des inconvénients, mais on avance que parce que on se bouge les fesses, quoi.
D'accord.
Ouais, c'est vraiment ce que j'avais envie, d'avoir aucune limite, si ce n'est les miennes, et de foncer, quoi. Mais l'expérience Trio Urbain m'a fait connaître aussi l'industrie du disque, de comprendre les acteurs, de savoir un peu comment il fallait procéder. Après, moi, j'ai fait aussi 4 ans d'études en communication, donc ça aide aussi un peu à appréhender, de savoir comment les choses fonctionnent et comment un peu travailler dans le sens pour que on essaye de se faire connaître. J'ai toujours essayé de m'arranger pour que les choses que je faisais, donc mes études et tout, me servent un beau jour pour faire ce que j'avais envie au plus profond de moi. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que ça s'appelle l'âge des possibles, quoi. C'est une volonté qui est là depuis très loin, en me disant moi, ce que je veux faire, c'est de la musique, et je me sens à l'aise que là-dedans, quoi.
D'accord. Donc déjà depuis pas mal de temps, tu t'étais fixé une direction, et en fait toutes les étapes que tu as pu franchir, ça t'a apporté quelque chose d'enrichissant, en fait, qui a contribué à te faire poursuivre dans cette voie, en fait.
Ouais, je pense qu'on est toujours on franchit des étapes. Après, c'est vrai que c'est un métier où il faut vraiment pas être pressé, quoi,
non.
Et prendre son temps. Et moi, j'ai souvent tendance à être impatient. Mais là, je peux vraiment m'estimer heureux parce que depuis la sortie du disque, il s'est vraiment passé pas mal de choses. Et donc, tant mieux, quoi. Enfin, moi, c'est vrai que j'avais voulu tout ça, mais de savoir que ça arrive aussi vite et qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce disque. Je chante plein de bonnes choses ça, c'est vraiment un bon retour, justement, quand on est resté 2 ans en hibernation. J'exagère, mais c'était un peu ça, quoi. Ça fait du bien, justement, à un moment de sentir que les énergies se rassemblent et qu'on n'est plus tout seul, quoi.
Ouais, voilà, un effet d'entraînement, et puis ça t'encourage.
Et ça fait rebondir tout le temps.
Ouais. Ok.
Ismar, tu parlais de Trio Urbain, avec lequel tu as sorti un EP 4 titres. Je suppose que c'était en vue de faire un album. Hein. Mais pourquoi, justement, j'aimerais savoir pourquoi t'en as pas sorti un, ou alors j'ai peut-être zappé cette info avant l'âge des possibles.
Sortir par exemple un 4 titres du SMAR.
Ou un 2 titres, ou un single avant l'album.
J'ai tout de suite eu envie, je me suis même pas posé la question. Moi, j'en avais marre depuis 3 ans de suivre ce système. On va d'abord sortir un maxi, on va voir si le maxi marche, et puis après on va faire un album. Je me suis dit non, tu travailles direct sur un album, quelque chose de... Voilà, je trouve qu'on arrive à défendre un univers beaucoup plus sur 11 ou 12 titres que sur 4 titres.
Oui.
Et justement, avec Truy Urbain, le premier 4 titres, ils partent un peu dans tous les sens, quoi. Et j'avais pas du tout envie de retomber là-dedans. J'ai fait une vingtaine de titres en tout, là, sur une période de 2 ans. C'était une évidence de sortir tout de suite un disque, et puis parce qu'en plus je sortais d'une expérience où on avait travaillé 2 ans sur un album qui n'a jamais vu le jour, et là la frustration, elle est terrible, quoi. Donc
c'était une logique de
sortir un album de dire allez mince, il faut passer à l'action, quoi, et sortir ce disque. Pour moi, c'était une naissance, ça correspondait vraiment à beaucoup de choses, quoi, et ça aurait pas pu se faire en 4 titres.
D'accord. Bien, bien. On va faire une petite pause, parce que tu parles beaucoup, c'est bien, c'est pas une critique, c'est très bien.
J'adore la radio.
Ça se voit, ça se sent. Donc on va faire une pause en écoutant un autre titre du SMA, on dira lequel après.
Jolie fille qui m'a tapé dans l'œil, je résiste, je n'ai pas le droit. L'âne le roi montre la voie, mais elle insiste. Elle insiste, je résiste, elle me cherche, je me désiste. Elle insiste, je craque. La danse commence, les habits volent, je pense à rien, me faire du bien. Je décomplexe, elle en sourit, se détache les cheveux et s'embellit. Fille parfaite, fille sans visage, c'est étrange mais c'est pas grave. Comme dans un rêve, le pied suprême, ascenseur pour le 7e ciel. Mais je pense à toi, c'est horrible, que vais-je te dire, oserais-je t'avouer ce faux pas, j'ai succombé, brisé l'union qu'on dit sacrée. Elle me guette,
elle me chauffe,
elle m'inquiète, prête à tout pour me séduire, me dit m'en foutre, facile à dire. Quand je rêve, ça compte. J'ai rêvé. Je ne me serais jamais cru capable de te faire ça. Mais la bête, l'instinct animal, est plus fort que moi. Je n'ai pas d'excuses, pas de remède. C'est ma faute. Mis en l'air. Ton amour à la porte. Je rêvais que je te trompais. Mais ce que rêver, c'est vivre. Je rêvais que je te trompais. Mais ce que quand je rêve, ça compte. Je rêvais.
Haute fidélité interprétée par Usmar et vous êtes toujours à l'écoute du 99.9 de... vous êtes dans On Off. Eh bien Usmar, on s'est dit qu'on ferait des petits jeux, enfin on a prévu deux petits jeux et celui-là en fait c'est à propos, qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de l'âge.
D'accord.
Tu vas deviner pourquoi. Alors en fait on a quatre premières questions. On voulait savoir, Sébastien et moi, à quel âge as-tu eu ta première dent?
Faudrait demander à mes parents, mais moi je m'en souviens pas. Je me souviens que de l'accouchement de ma mère, en fait. Je sais pas, première dent, c'est à quel âge ça? C'est à un an, non? Ouais.
Mm-hmm.
Je suis née avec 32 dents tout de suite.
D'accord, ok. Ensuite, à quel âge t'es-tu rasé pour la première fois?
Ah, ça, c'est venu très tard et j'en étais plutôt. Comment on dit?
Pas complexé.
Complexé, voilà. J'étais vraiment complexé parce que j'avais pas de poils et tous mes copains en avaient. Donc je vais dire bah, allez, 17-18.
Mm-hmm. À quel âge as-tu eu ta première biture?
Je me souviens, j'ai bu 3 bières et j'étais complètement saoul. Et c'était en 3e, donc je sais plus à quel âge on a en 3e.
Ouais, 15 ans.
Mmh. Ouais, voilà. Et même aujourd'hui, je bois 3 bières, je suis par terre. Quoi.
C'est pour ça que tu n'as pris qu'un jus de fruits, là.
Voilà.
C'est raisonnable, c'est bien. À quel âge devient-on vieux?
Je pense qu'on peut ne jamais devenir vieux. Donc ça dépend de la vie qu'on a envie de mener.
Mmh. Et selon toi, alors, quel est l'âge des possibles?
Bah, je pense qu'il est, il peut être différent pour chaque personne. Je pense que c'est un moment de sa vie. Enfin, moi, c'est ce que j'ai voulu dire, que mon âge des possibles, c'était un moment où j'avais la possibilité. Enfin, il y avait des choses qui qui s'amenait à moi, ou en fait c'est plus le chemin qu'on décide de se tracer, alors que, enfin, je sais qu'il y a souvent dans les vies, enfin dans les familles, des pressions familiales qui font qu'on oriente un peu les enfants vers tel ou tel chemin, qu'il faut faire tel type d'études. Et il y a un moment où il faut se poser aussi les questions, qu'est-ce qu'on a envie de faire soi, et qu'est-ce qu'on sent. Je pense que le plus important, c'est toujours d'être en phase avec soi. Et pour moi, c'était vraiment cette période où j'avais fait des études de communication, et que je sais qu'au fond de moi, il y avait cet amour de la musique et de me dire que j'avais envie de m'exprimer là-dedans. Et donc, ça correspondait, voilà, à cet âge-là. Mais moi, c'était 25 ans. Je pense que c'est aussi le moment où on termine ses études. On a fait des choses qui font qu'on commence à apercevoir quelle va être notre vie future, quoi. Généralement, quand on a fait des études, on s'attend à peu près à ce qu'on va faire comme métier. Donc, on commence à tracer sa route. Je pense que vers 30 ans, c'est déjà fini, à moins de faire vraiment un revirement à 90 degrés ou 180 degrés. Mais c'est une histoire de chemin, de cheminement qu'on se fixe.
Ouais, c'est en fait la transition entre la période où tu traces ta route et la période où tu la suis. En fait.
Voilà, entre ce qui n'est pas encore exactement tracé, mais qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent pour être ce que tu as envie d'être, quoi. Et c'est les questions que je me suis posées à un moment.
Bien. Pour en revenir toujours à la musique, et surtout à ton temps, tu as l'air d'avoir un emploi du temps surchargé, étant donné que tu composes, tu écris les textes, tu fais les arrangements, tu fais plein de choses au niveau de la musique. Tu fais que ça, ou alors tu as un job à côté? Est-ce que ta musique te permet vraiment de subvenir à tes besoins ou...
Depuis cette année, je suis intermittent du spectacle. Mais pas seulement et uniquement grâce à Usmar, c'est parce qu'à côté, je travaille avec une compagnie de marionnettes qui mélange l'art de la marionnette et les arts numériques. Et donc, en fait, je réalise la musique pour cette compagnie et je la joue en direct pendant les spectacles. Et donc là, on va notamment à Avignon tout le mois de juillet. Donc pour présenter le spectacle qui s'appelle Zapping Lupus, qui est l'histoire d'un loup et de toutes les histoires qu'on connaît à partir des contes du loup, donc les trois petits cochons, le chaperon rouge, le loup qui criait au berger, non, le berger qui criait au loup. Et donc tout ça est remixé version, on va dire, 2005, avec un mélange de marionnettes, d'un comédien et des images qui sont projetées. Il y a vraiment un jeu en temps réel avec les images. Tout est vidéo projeté à partir d'un ordinateur avec des programmations en flash, et moi je fais toute la musique en temps réel. Et donc on a pas mal tourné, c'est coproduit par Le Grand Bleu, donc à Lille. Et donc c'est un spectacle jeune public de 7 à 77 ans, et c'est vraiment... c'est un boulot super intéressant. Enfin, pour moi c'est pas un boulot, mais le fait aussi de travailler dans le spectacle vivant, mais vraiment plus orienté théâtre, a apporté aussi beaucoup de choses à ma façon d'être aussi sur scène et d'envisager la scène, notamment au niveau des lumières, des choses comme ça. Et je pense que les deux se complètent, et c'est vraiment intéressant de faire des passages de l'un à l'autre. Donc là, on travaille déjà aussi sur la prochaine création. Donc voilà, et puis je fais d'autres petites choses, des musiques pour des courts-métrages. Mais j'ai la chance de pouvoir vivre de ce que j'aime.
Oui, ça c'est déjà une bonne chose.
Mais je pense qu'il y a un moment aussi, c'est... Après, on a peut-être pas forcément la possibilité, mais c'est sûr que de faire un disque... Alors que la journée, on travaille dans une agence de pub ou chez Darty, c'est pas forcément évident, quoi. Il y a vraiment un moment, je pense, quand on veut passer le cap ou franchir, on veut vraiment s'y mettre à fond. Je pense qu'il y a que ça, c'est faire de la musique en se levant, je vais exagérer, pas à 8 heures, mais en se levant le matin jusque tard le soir, parce qu'il faut avancer. Moi, je sais que je pense constamment à ça, quoi. Enfin, quand j'étais dans ce disque, je pensais constamment à la création, à faire de la musique. Enfin, pas forcément à faire, mais j'avais toujours quelque chose qui faisait que j'étais dans une dynamique.
C'est l'immersion totale, quoi. Ça.
Voilà, et c'est vachement dur aussi de rentrer du boulot et de se dire, tiens, je vais faire 2 heures de zik. Il faut toujours être dans une dynamique de travail, de création, même si ça vient pas tous les jours, quoi. Ouais. C'est pas non plus comme ça, j'arrive et je vais sortir un gros tube. Ça existe pas, quoi. Enfin, c'est... Voilà.
Oui, pour revenir à l'âge des possibles, j'ai remarqué en l'écoutant qu'on y trouvait beaucoup de styles différents, donc il y a une grande diversité musicale, donc électro, du jazz, du hip-hop, même des petites consonances un peu world au niveau des mélodies. Et en fait, j'aimerais savoir si cette diversité, elle te vient naturellement par rapport à ta culture musicale, ou comme c'est ton premier album, est-ce que tu t'es imposé une certaine discipline pour montrer un peu l'étendue de ton talent et pas être trop vite mis dans une case en fait vis-à-vis des médias par exemple ou du public.
Ce qui se passe sur le disque musicalement, je pense que c'est vraiment dû à mon parcours musical, à ce que j'ai écouté, de mes influences, d'accord, où ça a été un ensemble d'enchaînement. Enfin, un style musical m'a amené vers un autre. En fait, j'ai commencé à écouter. Donc, malgré moi, vraiment, ce que j'aimais pas à l'époque, mais c'était du jazz, parce que mes parents en écoutaient énormément. Mm-hmm. Moi, plutôt, j'ai préféré écouter du rock. Alors, c'était la scène grunge à l'époque. Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, mm-hmm, toute la scène de Seattle. Donc, du rock. Après, le rock m'a amené vers... tout d'un coup, il y a Rage Against the Machine qui arrivait. Donc, c'était la fusion du rock avec le rap. Donc, ça m'a donné envie d'aller voir ce qui se passait en rap. Donc, j'ai commencé à écouter du rap américain, qui m'a fait découvrir le rap français. Le rap français et le rap américain m'ont fait découvrir le trip-hop, parce que c'était à peu près une même façon de travailler avec les machines, mais par contre, on remplaçait le rappeur par une chanteuse. Là, j'étais, tout d'un coup, là, c'était une grosse claque, parce que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Enfin, je me suis retrouvé dans cette musique où il y avait un mélange de machines, mais avec quand même beaucoup d'harmonie, de mélodie, comme on prend Portiched, Tricky, des choses comme ça. Morcheba. Après, ça m'a fait découvrir l'électro, la drum and bass. Et étrangement, dans tout ça, il n'y a pas de chanson française. Parce que j'ai jamais écouté de chanson française. C'est venu que ça vient qu'en ce moment, même si j'ai écouté Gainsbourg, Murat, Dominica. Mais je la découvre aujourd'hui, en fait. Et donc, je pense que c'est cet ensemble de passages,
un parcours.
Voilà, qui ont fait que j'ai écouté tous ces genres de musique et j'avais pas envie de me limiter. Enfin, je me suis pas dit en faisant mon disque, tiens, je vais faire un album d'électro ou un album de... En fait, j'ai pas vraiment réfléchi et je suis content aujourd'hui quand on me dit, on a l'impression que t'as digéré tous ces styles pour en faire quelque chose de personnel, et c'est vraiment ce que j'ai voulu essayer de faire, quoi. C'est de pas réfléchir à tout ça et de me dire, ce qui sort, c'est tout ce que j'ai ingurgité comme musique. Et voilà, quoi, c'est...
Ouais, donc en fait, t'as composé tous tes morceaux, tu les as mis côte à côte, bout à bout, et puis voilà ce que ça donne. En fait, tu t'es pas posé de questions sur le rendu final.
C'est, quand j'ai l'impression de partir sur un morceau, j'ai peut-être travaillé sur une chanson qui est née, guitare-voix ou des choses comme ça. Je commence à travailler sur une rythmique, sur des petits sons, des choses... des arrangements, et là je sais qu'il manque des choses parce que mon oreille attend une trompette ou attend d'un coup un batteur qui arrive ou une vraie basse, un son de contrebasse. Donc tout va se greffer, mais je pense que tous ces sons qui se greffent, ils viennent de mes influences, du fait que j'ai entendu tel et tel artiste qui m'ont influencé, qui ont fait que j'ai bien aimé des sonorités et tout se... c'est assez inexplicable, mais je pense que j'arrive à savoir pourquoi j'en suis arrivé là aujourd'hui, quoi.
D'accord. Et donc là, on parlait beaucoup de la forme, donc la musique, et pour en venir au texte plus particulièrement, on a remarqué, Marina et moi, que tes textes, souvent, il y avait beaucoup de mélancolie, de la nostalgie, ça évoquait des incertitudes, des choses comme ça. Et,
d'ailleurs, il y a le titre, si je peux me permettre, Sébastien.
Je pleure.
À quoi bon ? Le titre, à quoi bon ? Ça commence, le moral n'est pas au beau fixe, les glaçons sont servis à l'apéritif, j'ai le cœur lourd et serré.
Et sévère, pardon.
Oui.
De toute façon, l'album, L'âge des possibles, ça parle de tout ça. Enfin, tous les titres qui sont là-dedans, ils servent ce titre. Enfin, tous les morceaux servent le titre de l'album. C'est comme c'était. J'avais envie de faire ce disque pour après passer à autre chose et de me dire, j'ai fait ça. Et à l'intérieur de ça, il y a. Donc un regard sur mon adolescence, sur tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, sur ce que j'ai pas envie de devenir. Donc c'est pour ça qu'il y a plein, il y a de la nostalgie, comme la dernière chanson, Boucle d'or, sur l'adolescence. Il y a Temps de boîte, le moment où on redécouvre justement, quand il y a un déménagement, qu'on a rencontré plein de gens dans sa vie.
On l'a passé, ouais.
Et c'est souvent à ces moments-là qu'on découvre qu'on a grandi et qu'on a vécu plein de choses et que toutes ces choses nous ont servi à être ce qu'on est. Donc c'était l'album, il est là pour faire un constat, quoi. Et donc dans ce constat, bah, c'est que des choses que j'ai vécues à un moment donné, quoi.
Et pourtant, je crois qu'il y a la chanson Syracuse.
Ouais.
Où celle-là, au contraire, t'aurais tendance à te projeter, en fait.
Parce que c'est une reprise.
Ah bon, voilà, le bide.
Ça, c'est la seule reprise de l'album qui est une chanson d'Henri Salvador, en fait. D'accord. Et me demandez pas pourquoi j'ai repris cette chanson. Enfin, c'est juste que j'avais envie, sur un titre, de m'accaparer une chanson d'un autre et me l'approprier, de la faire entrer dans mon univers, quoi.
D'accord.
Et c'est cette chanson... C'est marrant parce que c'est pas la première fois qu'on croit que j'ai écrit cette chanson.
Parce que tu te l'es vraiment appropriée.
Peut-être,
en fait.
Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit aussi, dont chapeau pour la reprise de Syracuse, parce que c'est vraiment pas évident, justement, de reprendre une chanson et de se l'approprier comme ça. Et donc ça m'a donné des idées aussi. J'aime bien cette idée de reprise, mais vraiment de la retravailler pour se l'approprier, quoi. Enfin, faire une reprise pour histoire de... Enfin, moi, je vois pas l'intérêt, quoi. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire un album qu'avec des reprises. Mais vraiment de se réapproprier. Enfin, c'est par exemple l'album Nouvelle Vague, où ils ont complètement fait ça, avec des vieux morceaux New Wave.
Ecstasy, je crois, il y a un titre célèbre de Ecstasy qui a été
repris. Ouais. Et aussi, je sais pas, il y a un morceau de Come As You Are, aussi Nirvana, qui a été repris un peu en folk, qui est formidable, quoi. Enfin, donc... Je trouve ça intéressant.
Une petite pause musicale, peut-être, avec le titre dont on vient juste de parler. À quoi bon ?
Le moral n'est pas the beau fixe, des glaçons servis à l'apéritif. J'ai le cœur lourd et sévère, d'imaginer que tout est derrière. Je ne suis pas une machine, je ne lis pas entre les lignes, mais je sais. À quoi bon vivre tous les deux si la vie nous désenchante? À quoi bon vivre tous les deux si on s'emmerde ensemble? À quoi bon vivre tous les deux si la vie nous désenchante? À quoi bon sensation des caresses, on porte le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. J'en ai assez des plaisirs solitaires, il est bien moins le temps des ébats complémentaires. Je ne suis pas une machine, je ne lis pas entre les lignes, mais je sens. À quoi bon vivre tous les deux si la vie nous désenchante? À quoi bon si on s'emmerde ensemble? À quoi bon vivre tous les deux si la vie nous désenchante? À quoi bon vivre tous les deux si on est tous les deux un peu coupables de n'avoir pas su fleurir la table? Ça fait tant de temps et le temps est passé, on n'a plus que nos souvenirs à se débarrasser. J'aurais tant voulu croire à l'âge des possibles, il m'en restera des traces indélébiles. Je ferme le livre et son abécédaire, l'amour n'a pas assez de vocabulaire.
tous les deux. Si la vie nous désenchante, à quoi bon vivre tous les deux? Si on s'emmerde ensemble, à quoi bon vivre tous les deux? Si la vie nous désenchante, à quoi bon vivre tous les deux? Si on s'emmerde ensemble, à quoi bon vivre tous les deux? Si la vie nous désenchante, à quoi bon vivre tous les deux? Si
terrible. On rigole, on rigole. Plus sérieusement...
C'était pas très drôle, cette chanson.
Non, c'est pas très drôle, mais c'est pour autre chose. Hein. On précise aux auditeurs qui se sentent frustrés de ne pas savoir pourquoi on riait, mais vous allez comprendre maintenant, puisque nous allons faire un blind test, qui n'est plus vraiment un blind test dans la mesure où Ismar a un peu vu ce qu'on voulait lui faire deviner.
Je savais pas que c'était un blind,
bah oui,
un blind test.
Mais oui, tu savais pas. Mais en fait, on va corser la chose puisqu'on D'accord. te demandera les titres
et le minutage exact de la chanson.
Exactement. Non, bon, on va faire plus simple. On va quand même te demander le nom de l'album. On va essayer.
Dit quelque chose. C'est Joseph Arthur, c'est son premier album celui-là. Je crois que c'est le premier.
Ouais, c'est ça.
Ouais, j'adore.
Enfin, il s'appelle.
Et on a fait 4 ou 5. Je sais plus. Je crois que c'est le premier qui a été produit par Peter Gabriel. Il n'en a fait que deux chez Real World et après il en a fait d'autres.
On lui donne un point là,
ouais,
quand même.
Big City Secrets.
Voilà. Mais je l'avais vu justement en concert à l'aéronef où il était tout seul sur scène avec des pédales pour s'enregistrer en direct à la guitare.
Ouais,
et c'était un des premiers qui faisait ça et c'était incroyable quoi. Et le lendemain j'étais dans un magasin de musique, je me disais mais comment on peut faire ça? Comment
j'ai
on peut faire
ça?
Grand
mix. Ouais, c'est impressionnant.
Ouais.
Second titre, Bertrand. Stop.
Non mais là c'est pas possible sur une rythmique.
Non, toujours pas. Bon allez, on continue.
Jérôme Niel.
Voilà, c'est plus facile. Alors.
Donc c'est son deuxième album, La nuit qui éclaire, le jour qui suit, un truc comme ça.
Bingo.
Deux points.
Ouais, c'est un double album et c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent que mon univers fait un peu penser au sien aussi.
Voilà, c'est en fait quand j'ai écouté ton album, comme j'aime beaucoup Jérôme Minier, j'ai waouh, super, c'est enfin.
Mais pourtant ça a pas été une de mes grandes influences quoi. Enfin ça, il fait partie de ma discographie, enfin des disques que j'ai. J'ai l'impression d'être un peu plus mélodique.
Oui.
Enfin, qu'il a vraiment gardé ce côté.
Oui, c'est un peu plus.
Vraiment plus parlé, quoi. Oui. Et c'est vrai que sur les derniers titres que j'ai fait sur le disque, ou même ceux que je suis en train de faire en ce moment, je recherche de plus en plus à. Enfin, je prends en fait conscience de ma voix, donc à l'explorer et aussi de m'affirmer en tant qu'interprète, donc d'oser des choses plus mélodiques. Et de m'affranchir de ma première influence, enfin une de mes plus grosses influences qui est le rap. Voilà, mais j'aime vraiment beaucoup Jérôme Minière, même si j'ai pas suivi ce qu'il a fait après.
D'accord, ben là il vient juste de
sortir
un nouvel
album.
Je sais plus, c'est quelque chose chez Hericopter. Voilà.
D'accord, parce que lui il était chez Lycium qui n'existe plus, je crois.
Ouais. Voilà, Bertrand, le troisième. Makes me think like circles in a spiral, circles you find in your mind.
Ça, je connais pas du tout.
I wish it would stop now. I wish it would stop now. Stop. Free fall, the world
Je sais pas, mais faut me dire ce que c'est.
Donc en fait, c'est un artiste suisse qui s'appelle Polar.
Polar, mais si, ouais, je connais. Enfin, je connais le nom, mais...
Et un extrait de son dernier album. Par contre, j'ai oublié son titre. C'est celui où on voit une maison... avec des couleurs très flashy, avec tous les volets fermés sur la pochette.
Mais j'avais entendu parler du premier album il y a quelques années déjà.
Ça doit être Somatique, le nom de l'album.
Oui, Somatique.
D'accord. Ouais, ça fait un peu penser à des choses comme Not Twist ou des choses comme ça. The Not Twist.
Mm-hmm. Ouais, ouais.
Un groupe aussi que j'adore.
Ouais, j'ai vu aussi dans un festival. La Route du Rock, c'était là-bas. Ouais, c'est pas mal du tout.
Ouais, puis si j'avais choisi un... Polar pour figurer dans ce blind test, c'est justement, c'est un petit peu à la manière de Joseph Arthur, c'est qu'on retrouve cette base acoustique avec ces arrangements un petit peu électro, tous ces mélanges. En fait, tous ces...
Et dans les trois qu'on a écoutés, c'est aussi des gens qui sont self-made hommes, ouais. Ils font tout seuls à la maison. Quoi. Enfin,
c'est vrai, il n'y a aucun groupe.
Ouais.
C'est ça qu'on aime bien dans On Off, ouais. Et même sur PFM en général, on aime beaucoup. Et les autodidactes aussi, on va dire. Oui, bon, on poursuit alors ?
Oui.
On poursuit. Oui, le blind test est terminé. Donc tu as eu 2 points sur 3, c'est quand même pas mal.
C'est
bravo.
Bien au-dessus de la moyenne. Bon, on peut continuer parce qu'il y en a des disques qui sont derrière. Et...
Oh, on pourrait continuer la liste est bien longue. Sinon, donc pour en revenir à la musique et plus précisément au texte, en fait, j'ai une question à l'envers que j'ai intitulée à l'envers. C'est que généralement les artistes composent et écrivent leurs textes en anglais et toi tu les composes en français, donc tant mieux.
Même les artistes français.
Oui, enfin je parlais, j'ai pas précisé, bien sûr, les artistes français.
Avec
il y a pas longtemps.
La fameuse méthode de yaourt.
Oui, bon, ça dépend pour qui quand même. Non, il y a pas longtemps, j'ai accueilli, je sais pas si tu connais le groupe Siamese. C'est un groupe pop rock, punk rock, et en fait, bon, ils composent essentiellement en anglais. Donc, on leur fait coucou, hein, par hasard. Et il y a beaucoup de groupes, en effet, qui écrivent les textes en anglais. Ce qui est un peu dommage, quoi, parce que notre langue française est une belle langue.
C'est un grand débat. Tous ceux qui disent que, de toute façon, la langue française n'est pas rock'n'roll, quoi. Et ça a été un peu dur au début pour des groupes quand ils ont commencé à... Enfin, une époque, ils essayaient de transposer ce qui marche aux États-Unis en France, genre tous les groupes de néo-métal, tout ça. Tout d'un coup, ça faisait bizarre d'entendre les vieux, là, No One, Silmarils, en 96, qui chantaient en... Enfin, ça faisait bizarre parce qu'on est tellement habitués à cette culture du rock anglo-saxon. Mais après, il y a vraiment autre chose qui est la chanson française, quoi, où... Je pense qu'après, la culture française vient aussi de la poésie et des grands poètes qu'on a eus, et de l'amour du mot, et des syntaxes, et de tout ça. Mais moi, ça n'a vraiment pas été... c'est une évidence de chanter en français, quoi. Il y a aussi cette volonté, après, qui est très personnelle, de me dévoiler, donc ça passe forcément par... Et puis, je pense que le fait de chanter en anglais, c'est aussi se cacher derrière des mots, quoi. Parce que, quand on chante une chanson, à moins de faire une tournée aux États-Unis ou dans les pays qui parlent l'anglais, mais avec un public français en face de soi, la communication est immédiate dès qu'on parle en français, quoi. Les gens rentrent dans les chansons tout de suite, et c'est ça qui est... Enfin, moi, je raconte des choses personnelles, et j'ai envie de raconter ces histoires, et j'ai envie que les gens rentrent dedans, donc...
Ce serait pas cohérent, en fait, de passer par l'anglais, si c'est pour te livrer, justement.
Ah
ouais,
j'y ai même pas pensé une seconde, quoi. Même si, en plus, après, il y avait... tout le monde a dit dans les maisons de disques, le trip-hop en France, ça marchera jamais, et surtout le trip-hop français, parce que cette musique, il faut que ça soit chanté en anglais. Mais, moi, je considère pas que je fais du trip-hop. Pour moi, c'est la chanson française. La chanson française, c'est vraiment hyper large. On peut faire la chanson française en reggae ou en pop, en en électro. Donc moi, il y a une petite touche d'électro, il y a, enfin, il y a plein de choses, quoi. Mais pour moi, la chanson française, donc c'est tellement, il faut aussi avoir la curiosité d'aller découvrir justement des univers, quoi.
Ouais. Puis je trouve que ton phrasé, en fait, ta façon de chanter se marie bien avec ta musique. C'est cette manière que tu as de jouer avec le rythme des syllabes, tout ça, sur certaines chansons, vraiment, c'est...
Ça lisse.
C'est en phase.
La phrase,
quoi,
lisse.
Il y a des choses où j'ai beaucoup aimé, justement, c'était une partie du rap anglais, en fait, qui était pas du tout revendicatif comme peut l'être le rap français ou le rap américain, mais surtout des choses plutôt soft. Enfin, comme le rappeur sur le premier disque d'Archive, ou même la façon dont rap 3D de Massive Attack, où c'est des choses plutôt des flots très calmes. Enfin, et j'ai plus eu envie d'aborder ces choses-là, quoi. De toute façon, je me voyais pas revendiquer des choses comme peut le faire le rap français. Donc, ça vient de là aussi. J'étais plutôt attiré par ce genre de phrasé. Et après, avec le temps aussi, de développer de plus en plus justement le côté mélodique, le fait d'écouter aussi un peu de chansons françaises. Même si en chanson française, je reste quand même pour l'instant très sélectif. Il y a vraiment des choses, la chanson réaliste, tout ça, j'apprécie pas encore. Ou tout ce qui est chanson française festive, c'est pas du tout mon truc.
Les têtes raides, tout ça.
Ouais, je connais pas beaucoup. Mais je préfère des trucs comme Camille, La Grande Sophie, des choses comme ça qui mélangent déjà, qui viennent avec une base de pop, rock, un peu de touche électro, d'arrangement, et qui viennent... Enfin, en fait, j'aime bien quand c'est un peu nouveau, quoi.
Ouais, bah surtout l'album de Camille avec... c'est le fil.
Ouais, enfin, moi, je trouve ça extraordinaire, quoi.
Ouais, avec tous les morceaux reliés par une seule note, en fait.
Mais le premier album était déjà très fort, et le deuxième, là, c'est... Claque. En plus, en concert, c'est monstrueux. Donc, voilà, je me sens proche de ces gens-là, quoi. Enfin, on sent que quand ils arrivent avec leur album, voilà, ça ressemble à personne, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai envie de. Pour l'instant, on m'a pas encore dit ton truc, ça me fait penser à. On me dit, on sent des influences ou. Mais
l'ensemble de ces influences, ça fait penser à rien. En fait,
voilà. C'est... Et enfin, pour moi, c'est le plus beau, la plus belle chose qu'on puisse me dire, quoi. Quand on dit, ah, ton truc, ça me fait penser à machin.
Les boules.
Ouais, enfin voilà, le but c'est pas de faire une copie ou de faire c'est d'arriver à, enfin moi c'est pour, j'ai aussi envie d'arriver avec des choses nouvelles ou de faire mon truc et que les gens me disent ce que tu fais ça apporte, enfin c'est pas que ça apporte un truc parce que ça serait un peu trop important de dire ça, mais de voilà, de venir avec quelque chose de personnel.
D'accord. Une créativité, tout simplement. On va faire une autre pause musicale. Je me demandais en fait, Syracuse, il dure longtemps ? Je ne sais plus. Bertrand ?
5 minutes 19 secondes pour Syracuse.
Oui, ben.
On parce qu'en Syracuse, fait, alors.
Oui, j'avais pensé sans arrière-pensée, mais.
Qui est encore plus long ?
Non.
Moi, je me souviens très bien de la version d'Henri Salvador, hein, contrairement à Sébastien.
De paquets qui roulent,
glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fuji.
Syracuse interprété par Usmar, vous êtes toujours dans l'émission On Off. Alors Usmar, on va bientôt terminer l'émission et tu vas pour nos auditeurs et auditrices jouer un petit morceau en live. Et avant ce mini live, on va dire, on a encore quelques petites questions. Tu as été récompensé SACEM au printemps de Bourges 2005. Donc en fait, on voulait savoir un peu comment tu as vécu déjà le printemps de Bourges, cette récompense, que ça t'a apporté, ce que ça va t'apporter.
C'est vraiment une super expérience déjà d'aller là-bas, de sentir un festival et tout ce que ça comporte, et surtout que c'est un peu le premier festival de la saison. Après, on y va aussi dans des conditions un peu particulières, puisque c'est les découvertes, qu'il y a un prix, qu'il y a un enjeu, qu'on sait qu'il y a beaucoup de pros qui nous regardent, donc on sent que la pression est plutôt forte et que le stress nous envahit. Mais ça s'est plutôt bien passé, et puis justement le prix... puisqu'il y a 4 prix à gagner et j'en ai reçu un, donc c'était vraiment une super nouvelle. Donc c'est une résidence pour travailler les concerts qui va se faire certainement à la rentrée. Donc voilà, ça c'est je pense que c'est une belle étape que en plus c'était la première fois que moi je sortais de la région, présentais USMAR un peu au niveau national, donc d'amorcer la chose au niveau national avec le Printemps de Bourges, c'est plutôt pas mal.
C'est clair, c'est clair.
Et là, j'en remets une couche avec La Rochelle cet été.
Mmh. Oui, justement, c'est ce qu'on voit sur ton forum. D'ailleurs, tu peux nous dire l'adresse internet du site.
Donc, l'adresse internet du site qui est très importante puisque grâce au site, on peut acheter le disque. donc, c'est www.usmar, donc USMAR, usmar-online.com. usmar-online.com, et si vous ne trouvez pas, vous tapez USMAR dans Google et vous tomberez en premier sur le site.
Oui, il y a un très bon référencement, en effet, en première page de... Enfin, le premier site, c'est sur Google, c'est USMAR.
Donc. Voilà, et donc, si les chansons vous plaisent, déjà, vous pouvez les réécouter en ligne. Il y en a 5 ou 6 qui sont en écoute. Et on peut commander l'album en paiement sécurisé pour 11,90€.
Pour la modique somme de 11,90€. Voilà. Ce qui n'est pas cher, parce que franchement... nous, on l'a écouté, je sais pas combien de fois, mais pas mal.
Non, mais c'était une volonté aussi. Enfin, le faire. Après, c'est peut-être parce que je l'ai fait en autoprone, mais j'avais pas envie qu'il soit à 15€. Mmh. Aujourd'hui, on sait, enfin, qu'il y a des gens qui téléchargent et tout. Donc,
faites vivre les groupes de votre région. Les
ouais,
groupes qui,
ouais. Enfin, je pense que les petits
ouais.
groupes et tout, c'est important d'acheter ouais, leur disque, quoi,
bah
parce
ouais,
que. Et donc, ouais, j'avais pas envie que le prix soit élevé. Et puis, en plus, il y a un petit bonus. Quand on achète le disque, il y a un code sur le CD qui permet d'aller télécharger dans une partie réservée d'autres titres qui figurent pas sur l'album, qui ont été conçus en même temps. Mais... Puis, des petits bonus. Et donc, c'est une partie qui viendra... Enfin, où des choses viendront compléter cette partie. Donc, voilà.
Mmh, d'accord. Et justement, en parlant de l'album et du forum qui est sur ton site, il y a une question d'une internaute qui s'appelle Céline, qui aimerait savoir à quand, en fait, une sortie nationale de l'album.
Eh ben, on y travaille avec toute mon équipe. Et donc, on espère avant la fin de l'année, enfin, à partir de entre septembre, octobre, puisque là, les dates... date de concert commence à se mettre en place pour la rentrée, donc on espère une distrib nationale en même temps.
D'accord. En tout cas, Céline, sache que tu peux l'acheter déjà sur Internet, ce qui est très bien. Sébastien ?
Bah écoute, comme votre question, une question peut-être un petit peu bateau, mis à part la musique, est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt, des choses sur lesquelles tu as...
J'aime beaucoup, beaucoup le cinéma. Et...
D'où les BO que tu as pu faire aussi, je pense.
Ouais, c'était assez intéressant. Mais c'est vrai que travailler à l'image, j'aime beaucoup. Et je prends l'exemple de Bernie Bonvoisin, qui était le leader de Trust, et voir comment il a réussi à se réorienter dans le cinéma, je suis assez admiratif. Et c'est vrai que j'aimerais me dire un jour, pourquoi pas, mais je m'en sens pas du tout capable, mais m'intéresser à la réalisation. Mais là, pour le coup, être aussi derrière la caméra plutôt que devant. Mais c'est vraiment un univers que j'aime bien. Et enfin, voilà.
Le dernier film que tu as vu ?
Le dernier film que j'ai vu, bon, mis à part Star Wars, y a celui qui a réalisé Sur mes lèvres de...
Oui.
De Battre mon cœur s'est arrêté.
Oui.
Qui était justement en plus sur la musique.
Je ne l'ai pas vu, mais...
Et... voilà, j'ai d'accord. beaucoup aimé.
Ok. Sébastien, tu avais une petite question rigolote.
Oui, bah, c'est quand même une question importante. J'aimerais savoir si tu es toujours autant déçu par ton chat.
Ce que vous devez savoir, c'est que il va bientôt y avoir... nous allons inonder la France d'autocollants. Et l'autocollant, c'est USMAR. Et en dessous, c'est marqué son chat l'a déçu. Et donc, pour avoir la réponse, il faut aller sur le site... Non, il faut écouter l'album. Mais non, ouais. Un autre son d'intérêt, tiens, les chats. Non, j'ai un chat qui ne m'a pas déçu encore pour l'instant. Et c'est... Ceux qui me connaissent ont bien rigolé en entendant cette rime.
D'accord, bon. Donc, tes projets, hein, pour que les auditeurs sachent où aller, où passer leurs vacances pour aller te voir.
Donc, les projets, là, le prochain concert dans la région, c'est pour le Festival de la Côte d'Opale, à Boulogne-sur-Mer, le 30 juin, le jeudi 30 juin au théâtre, avec Laetitia Chérif. Ensuite, donc, il y a deux dates au Festival de Francophonie de La Rochelle. Et ensuite, bah, c'est en train de se mettre en place pour la rentrée. Voilà, il devrait y avoir pas mal de concerts en région. Il y a des dates prévues à Paris. Au mois de novembre, au mois de décembre. Donc, notamment, mais je peux pas encore le dire, dans une très grosse salle. Enfin, une belle salle.
Bon.
Et voilà, faut...
Bah bien, bonne continuation en tout cas. Et...
Bah merci et beaucoup de m'avoir invité.
Merci à toi d'être venu et puis à ta charmante accompagnatrice Nathalie. tu vas nous jouer un morceau de, extrait de ton album.
Ouais, donc là il n'y a plus de machine, plus rien, c'est juste guitare-voix.
Voilà.
Et c'est justement un morceau que je fais en rappel des concerts quand les gens... ont aimé le concert, parce que des fois je le fais pas, parce que des fois je me prends des énormes vents.
Oh.
Non, c'est pas vrai. Et donc c'est Temps de boîte en acoustique.
D'accord. On retrouve bien sûr on-off pour les rediffs le jeudi à 17h30 et le samedi à 17h pour ceux qui n'ont pas pu suivre le direct. Ciao, ciao.
Quand on déménage, c'est sa vie qu'on nettoie. Je suis dans les cartons, je range et j'astique. Des sourires, des larmes sont classés par année. Le bonheur et les drames sont détenus et archivés. J'ai redécouvert tous mes cahiers. J'ai vu mon écriture changer. Des leçons d'histoire, des racines carrées s'additionnent dans ma mémoire. Des poussières et tant de photos que je revois, tant d'émotions partagées. J'ai enfoui en moi tant de boîtes et de boîtes et de boîtes et de boîtes. J'ai enfoui en moi tant de boîtes et de boîtes et de boîtes et ça n'en finit pas. Tant de livres, tant d'écrits, d'attention durant des heures. Tout ce que j'ai appris par au feu. Quelle erreur qu'ai-je pourtant retenu de ces proses? Si je suis ce que je suis, c'est qu'elles m'ont apporté quelque chose. Je trie et je jette un passé dévolu. Il me reste une dernière boîte et après je serai nu. Des photos, des amis, tous que sont-ils devenus? On a partagé tant de lettres pour rester inconnu. Je me croyais totalement invulnérable. Que je ne grandirai jamais, pourtant les cartons et les boîtes me rendent inconsolable. J'ai enfoui en moi tant de boîtes et de boîtes et de boîtes et de boîtes. J'ai enfoui en moi tant de boîtes et de boîtes et de boîtes et ça n'en finit pas. Chacun de mes amis à quelque part une petite boîte bien rangée chez moi. C'est le foutoir, un bordel que je crois maîtriser. J'ai enfoui en moi tant de boîtes et de boîtes et de boîtes et de boîtes. J'ai enfoui en moi tant de boîtes et de boîtes et de boîtes et ça n'en finit plus.
Oh.
Merci.